Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet sur le site de Kenwin ce matin. Une rencontre avec les chefs d'entreprise sur l'un des lieux martyrs des émeutes du 13 mai. Les présidents des deux chambres parlementaires quittent le territoire ce soir après avoir multiplié les rencontres pendant 3 jours de visite. Première affaire de sang de la deuxième session d'assises. 3 accusés sont dans les box pour avoir passé à tabac un jeune devant un commerce de Dumbéa en 2022. En métropole, pas question de reporter ou de délocaliser le match de football France-Israël. Le ministre de l'Intérieur l'a encore confirmé ce matin. À l'Assemblée nationale, le volet recette du projet de loi de finances, très largement amendé par la gauche, a été rejeté par les députés. C'est donc le texte initial du gouvernement qui prend la direction du Sénat. Et puis le sport, avec la suite des Masters de tennis de Turin. Première sortie de ce grand tournoi final de l'ATP de la saison, l'Australien Alex de Minaur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est donc le dernier jour de visite en Calédonie pour Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale accorderont avant leur départ ce soir une interview à plusieurs médias calédoniens, dont Radio Rythme Bleu. Et vous pourrez donc suivre cette interview en direct ce soir sur notre antenne à 19h. 6 mois, jour pour jour, après le déclenchement des émeutes, ils ont débuté leur dernière journée par une séquence économique. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont en effet rendus à Dumbéa, sur le site détruit et dévasté de Kenwin, pour y rencontrer les chefs d'entreprise, Léana Colombo.
Oui, c'est devant ce centre commercial, lieu empreint d'émotion et symbole des destructions depuis le 13 mai, que l'échange avec les acteurs économiques s'est déroulé. Après avoir constaté les dégâts, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont écouté les témoignages, les remarques et doléances des représentants du monde économique, des discours forts qui cherchaient parfois à bousculer les deux parlementaires ou du moins à leur transmettre une certaine détresse face à la situation, comme l'explique Xavier Benoît, le président de la FINC.
J'ai exprimé la colère aujourd'hui des chefs d'entreprise et donc effectivement je voulais partager cette colère avec les deux présidents de chambre pour qu'ils comprennent que les choses n'avancent pas aujourd'hui et notamment, vu leur position, n'avancent pas avec l'État. Évidemment on a aussi des soucis localement et donc je voulais exprimer ça parce qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ne pas avoir de réponse, ils n'en peuvent plus qu'on ait un système suradministré qui nous explique qu'on ne peut pas, que l'Europe ne peut pas, etc. Donc, c'est ça qu'on voulait exprimer et puis parce que c'était important dans le cadre de leur mission, de leur dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de Calédoniens ne comprennent pas le fondement de leur mission. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'est une mission de plus comme on en a eu plein en Nouvelle-Calédonie? Et donc c'était important, je pense, de leur exprimer et cette colère et cette interrogation.
Des propos compris et justes, selon la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.
Je comprends, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. C'est terrible, c'est, on le voit ici, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'ouvrir les oreilles. Et c'est aussi à ça que ça sert de se déplacer. Les violences ont été incroyables, incommensurables. Et ils ont été atteints dans leur chair, et donc c'est difficile. Et on le sent bien, et puis ils sont inquiets pour leurs salariés aussi, parce que c'est des vrais patrons responsables. Ils sont inquiets pour les gens, pour les familles. Et donc il faut qu'on soit voilà, à leur côté. Ils pensent que l'État doit être mieux organisé, on en a parlé, délégué interministériel, commissaire au plan, peu importe, mais en tout cas, qu'on puisse faire preuve de souplesse, de rapidité, d'efficacité pour répondre à leurs attentes, parce qu'eux, ils veulent reconstruire. Donc, soyons à leur côté pour leur permettre de reconstruire.
Parmi les points évoqués, donc, le chômage partiel, le FSE, la mise en place d'un référent unique qui rendrait compte des difficultés des entreprises et des décisions prises par les institutions, mais aussi le problème des assurances qui ne jouent pas leur rôle, selon la présidente de l'Assemblée nationale. Des besoins urgents, précise la présidente du MEDEF, Mimsy Deli.
Il faut de toute façon quelqu'un qui ait l'énergie de fédérer, de prendre des arbitrages, d'aller chercher des solutions, de tenir un planning et maintenant d'arriver dans une phase de réalisation concrète des mesures que nous demandons. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce leadership, il faut qu'il s'incarne dans un groupe, dans une personne ou en tout cas dans un dispositif qui soit opérationnel. Et ça, nous en avons besoin dès aujourd'hui.
Et Yaël Braun-Pivet a également évoqué les assurances.
C'est avant tout, je le répète, le problème de la garantie. Aujourd'hui, les assurances ne peuvent pas tout régler. Elles jouent le jeu en Nouvelle-Calédonie actuellement, mais demain, la garantie de l'État sera très probablement nécessaire et nous demandons qu'un fonds dédié soit créé pour la garantie émeute, pas uniquement pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour probablement l'ensemble du territoire national qui a tendance à perdre en fait ce type de garantie compte tenu de ce modèle de contestation qui, je le répète, est catastrophique. Quand on utilise la destruction pour contester, eh bien, on détruit tout simplement la vie des familles, on détruit la vie des quartiers. Je ne sais pas si c'est le but qui était recherché, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la situation dont nous avons hérité.
À l'issue de ces échanges, le président du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré vouloir rester attentif et envisager cette mission sur le long terme.
Mon ressenti d'abord, c'est le courage des chefs d'entreprise, le courage, j'allais dire, de ceux qui les représentent. Vraiment l'envie de se relever. Quelque part, dans un drame, il y a une forme de leçon de volonté que nous venons de recevoir. Et ce qui nous a été transmis, nous avons le devoir, nous, de le transmettre rapidement. Et on ne peut pas se dire qu'on étudiera encore et qu'on fera un énième rapport. Notre sujet, c'est qu'il y a des réponses qui doivent être apportées dans les meilleurs délais. Non pas de faire des promesses évanescentes, mais que la Nouvelle-Calédonie ait vraiment le sentiment qu'on est à ses côtés avec ses élus et avec ses entrepreneurs, tout simplement au service des Calédoniens.
Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet se sont engagés à donner des réponses opérationnelles d'ici la fin du mois de novembre. Et parmi les personnalités présentes, en plus des acteurs économiques, on notera les deux députés Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tchibaou, les deux sénateurs Georges Naturel et Robert Rouy, ainsi que la présidente de la province sud, Sonia Baquès.
Et pour rendre compte de la réalité des émeutes, notamment à Kenwin, c'est Frédéric Pentecôte, dont la famille est à l'origine de la création du centre commercial qui a accueilli les deux parlementaires. En seulement 4 jours, le complexe de 34 000 m² a été entièrement détruit. Les dégâts se montent à 15 milliards de francs. Il était donc important pour Frédéric Pentecôte que Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet viennent sur ce lieu symbolique.
On est situé au centre commercial Kenwin. Sincèrement, j'étais assise dans la brise et je me disais, mon Dieu, quel endroit magnifique et quel endroit merveilleux. Il y avait besoin quand même de témoigner de ce qui avait pu se passer à une très grande échelle, puisque sur ce centre commercial, on a perdu quasiment 33 000 m² de construction et certainement à peu près 800 emplois qui ont disparu du jour au lendemain. Des gens qui avaient travaillé quand ils étaient sortis de l'école en 89, donc des gens qui étaient proches de la retraite. Donc c'est quand même une catastrophe. C'est vrai que la difficulté pour nous, c'est qu'en fait, à aucun moment donné, en termes d'assurance, on a pensé que cette sinistralité serait totale, parce que là, on voit une partie du groupe, mais il y a d'autres parties sur Ducos également qui ont disparu. Donc globalement, nous, l'assurance ne couvre pas la totalité du sinistre. Donc c'est déjà comment reconstruire demain. Déjà, il va falloir qu'on prenne sur nos économies pour démolir, et on verra dans le futur comment les choses se passent. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est d'une solution politique pour la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est celle-là qui permettra de lever un certain nombre de blocages.
Et près de 400 salariés qui travaillaient dans le centre commercial Kenwin sont à l'heure actuelle toujours en chômage partiel. Après cette séquence, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher se sont rendus à la maison des syndicats. Ils ont rencontré le monde syndical à la Vallée du Tiers, Michael Juneski.
Oui, une réunion avec les représentants des organisations syndicales majoritaires en Calédonie. C'était un message fort envoyé pour Gérard Larcher. Les partenaires sociaux doivent tous être entendus dans les discussions globales. On écoute le président du Sénat.
Se posent aussi les problèmes immédiats, le chômage partiel, la situation de la santé. Le président de la province Nord nous en avait notamment parlé quand nous étions en province Nord. J'ai vu aussi les chiffres que le Conseil de l'Ordre donnait sur les projets de départ d'un certain nombre de médecins. Sur ces sujets-là, de l'urgence sociale, nous avons échangé, mais aussi dans un territoire qui connaît de grandes difficultés, nous ne connaissons pas d'autre solution que le dialogue social et le rôle des corps intermédiaires. Les partenaires sociaux, peut-être l'ancien ministre du Travail qui dit ça, sont des acteurs, que ce soit les représentants des entreprises et les représentants des salariés. Et c'est la conjugaison des deux qui permet d'avancer et de progresser. Donc notre présence était aussi un symbole de l'importance du dialogue social.
La voix des syndicats n'a pas été suffisamment entendue. Ils doivent être impliqués dans toutes les discussions. C'est ce qu'a déclaré également la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet.
Ils avaient envie de nous rencontrer. Ils ont tous exprimé la considération qu'on leur apportait. Et oui, évidemment, c'est important. Ils ont un rôle à jouer dans la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, mais un rôle plus largement à jouer dans la prise de décision publique. Effectivement, parfois, on veut aller vite et donc on passe un certain nombre d'associations ou de consultation, c'est une erreur. Il faut prendre le temps d'associer tout le monde. C'est eux aussi qui représentent les salariés, c'est eux qui ont des idées à apporter, des revendications à porter. Il est normal que le président du Sénat et moi-même, en tant que président de l'Assemblée nationale, soient à leur écoute ici, en Nouvelle-Calédonie, et également à Paris, où nous rencontrons très régulièrement les animateurs des organisations syndicales. C'est fondamental dans une société si on veut construire une société apaisée.
Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale qui se déplacent à la rencontre des syndicats calédoniens, c'était inédit. Jean-Marc Burette, le secrétaire général de l'USOINC, l'un des représentants qui a participé à ces échanges.
Ils ont ouvert la voie de la considération. Trop souvent, on a porté des sujets et des messages en Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas été entendus ni écoutés. C'est un geste fort pour nous. C'est qu'ils sont venus nous écouter sur toutes les problématiques que peuvent rencontrer les Calédoniens après le 13 mai. Et on a pu échanger avec eux sur les sujets de préoccupation. et sur les orientations qu'on souhaiterait justement pour répondre à la crise dans l'immédiat. Viendra le temps des réformes, en espérant que le temps politique ne prendra pas le pas et ne viendra pas grignoter ce temps qui nous est imparti pour procéder aux réformes. C'est important et on appelle à la responsabilité de chacun que le temps qui nous a été dédié supplémentaire avant les prochaines élections ne sert pas que à une surenchère électorale, mais bien à travailler les difficultés des Calédoniens. Ce sont des gens qui respirent l'humilité, qui respirent l'écoute, qui sont très attentifs à chaque mot qui sont posés, qui savent très bien aussi porter la parole. Je pense que ce sont les bonnes personnes à la bonne place et au bon moment. Enfin, les syndicats sont considérés. Le social n'est pas négociable. Le social doit avoir toute sa place dans les réformes. Donc on veillera à ce que ce social soit respecté.
Quant à la teneur des discussions, les représentants du monde syndical ont simplement indiqué qu'ils ont de nouveau exposé leurs principales revendications dans les différents secteurs économiques au président du Sénat et à la présidente de l'Assemblée nationale. La rencontre entre Gérard Larcher, Yaël Braun-Pivet et les représentants des organisations syndicales aura duré plus d'une heure et demie donc à la Maison des syndicats à la Vallée du Thiers.
Et après cette double rencontre avec les acteurs du monde socio-économique, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet poursuivent leur journée par une visite du camp Est. Cet après-midi, ils rencontreront les membres du comité Parole, Mémoire, Vérité et Réconciliation avant de s'entretenir avec les maires de Nouvelle-Calédonie. Ils participeront ensuite à une séance de travail au Congrès et avant leur départ, je vous rappelle qu'ils donneront une interview à 19h à plusieurs médias calédoniens. Interview que vous pourrez donc suivre ce soir en direct sur notre antenne à 19h. Hier après-midi, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher étaient au Mont-d'Or. Ils s'y sont rendus en navette maritime pour rencontrer les habitants du sud de la commune, exaspérés par les 6 mois de blocage. Ils ont échangé avec les élus, mais aussi avec des représentants de l'Association des citoyens mondoriens et du collectif Yaté. Des échanges loin des micros et des caméras qui ont touché le président du Sénat, Gérard Larcher.
C'est un moment profondément humain. Et au fond, on s'aperçoit que la commune, c'est quand même le lieu de la proximité. Le lieu où les gens peuvent exprimer les choses. Et notre rôle, c'était de venir entendre, écouter. On a vraiment entendu des souffrances. Mais une envie aussi, c'était une élue d'IAT, de tracer des perspectives d'avenir. Et donc d'apporter une forme d'espérance dans la désespérance. Je voudrais remercier le maire du Mont-d'Or pour son accueil, pour le fait qu'il ait pu permettre aux élus de communes, mais surtout aux citoyens, aux acteurs des entreprises de s'exprimer. Ce n'est pas par hasard si on est là.
La question du viaduc ou de la route de contournement a occupé une partie des débats, mais le maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux, retient aussi la qualité des échanges.
Il y a eu beaucoup d'émotions dans plusieurs interventions. Il y a eu de la sensibilité, il y a eu du courage, il y a eu des jeunes gens qui en parlaient et puis qui cherchaient dans leur vie à retrouver un chemin, à trouver des engagements pour plus tard. Et je crois que ça, ça a vraiment interpellé l'un et l'autre qui sont des parlementaires de haut niveau. Des gens d'une grande intelligence qui sont venus à la rencontre de personnes qui avaient énormément besoin qu'on les écoute et surtout qu'on apporte des solutions.
Est-ce qu'il a été question de ce fameux viaduc dont on parle beaucoup ?
Bien sûr, il en a été question. On leur a donné des dossiers concernant cette route de contournement. Moi, j'appelle ça aussi une route de développement du Sud. Donc, j'ai donné des dossiers pour dire qu'il fallait à tout prix que cette route soit à la hauteur de ce que non seulement les Mandoriens attendent, mais les gens Yaté. Ils l'ont rappelé aussi, Yaté, que même s'ils avaient beaucoup de familles à Saint-Louis, ils trouvaient maintenant de façon terrible, depuis 40 ans, qu'ils ne pouvaient pas passer cet axe.
Donc c'est pour vous une journée positive ?
Ah, c'est une journée qui sera marquée dans les annales.
Les présidents des deux chambres parlementaires ont terminé cette visite au Mont-d'Or à la caserne de gendarmerie de Saint-Michel où ils ont rendu hommage au travail des forces de l'ordre pendant les émeutes. Et puis leur journée d'hier s'est conclue à la mairie de Nouméa. Ils ont échangé avec près de 90 membres de la société civile, notamment des jeunes étudiants, auto-entrepreneurs, sportifs ou travailleurs qui ont partagé leurs inquiétudes, leurs témoignages et leurs projets.
Aujourd'hui, j'ai voulu parler des compétences en Nouvelle-Calédonie. Savoir est-ce que pour les jeunes avec des compétences, il y a un avenir pour nous en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'on fait bien d'investir notre temps, notre énergie ?
Le message que j'ai tenté de transmettre aujourd'hui, c'était de mettre en avant le sport pour essayer de le développer en Nouvelle-Calédonie. Parce que, encore une fois, le sport, c'est un vecteur d'épanouissement chez l'être humain.
J'ai trouvé que ces échanges étaient très enrichissants. J'ai pu entendre et écouter en fait les témoignages de plusieurs personnes. Et pour moi, en tant que jeune, le fait d'entendre aussi d'autres témoignages de personnes qui ont vécu ce qu'on a tous vécu, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup émue. Là, c'est un espace qui a été ouvert pour que la parole de chacun puisse être déposée.
Et les responsables du secteur associatif ont aussi pu s'exprimer, notamment pour alerter sur leur situation.
Le message que j'ai souhaité faire passer au nom du collectif, c'est est-ce que les associations qui œuvrent sur le territoire sont aussi considérées comme société civile. On est là pour venir faire des missions que aujourd'hui nos collectivités ne peuvent plus tenir, hein, la solidarité, l'entraide, le social, le culturel, le sport, etc. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que nous, à un moment donné, on aura notre mot à dire.
Oui, alors c'était important de saisir l'échange qui nous est proposé pour pouvoir justement interpeller sur la question des associations spécifiquement. Je ne sais pas quelle sera la réponse de l'État par rapport à tout ce qui a été dit. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un, de l'écoute, deux, des réponses qui étaient adaptées et puis surtout une énorme liberté de parole. Non, on ne peut que solliciter le travail de proximité qui a été fait.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Êtes-vous satisfait des propos tenus par Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet dans leur discours devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et puis la réponse à notre question d'hier, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le ministre de l'Intérieur a raison de maintenir au Stade de France la rencontre France-Israël de football. Ils sont 14% à être d'un avis contraire. 11h et bientôt 47 minutes. Dans un instant, on voit ce qui fait le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment cette nouvelle affaire devant les assises de Nouméa.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre Auchan Kéféri fête ses 1 an. C'est notre anniversaire, mais c'est vous qu'on gâte. Du 11 au 17 novembre, on double votre cagnotte fidélité, on vous offre des bons d'achat et la possibilité de remporter 2 caddies surprises par jour d'une valeur d'environ 60 000 francs. Rendez-vous en magasin.
Le Salon Toyota 2024. Du 15 au 17 novembre à la Maison des Artisans. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs, mais aussi sur les véhicules d'occasion. Venez découvrir la gamme Toyota et les dernières nouveautés. Alors rendez-vous du 15 au 17 novembre à la Maison des Artisans. Et le Salon Toyota, c'est aussi chez Nord Motors Kone.
Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie et l'actualité judiciaire. 15 ans de prison pour viol et attouchement incestueux sur mineur. C'est la peine prononcée hier à l'encontre d'un accusé qui comparaissait devant la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie. L'avocat général avait requis une peine de 10 ans de prison. Depuis ce matin, c'est une affaire de violence en réunion qui est jugée devant les assises des mineurs. 3 accusés sont dans le box. Le 11 février 2022, ils avaient passé à tabac un jeune devant un commerce de Dumbéa. La victime, sévèrement blessée, a été plongée dans le coma. L'un des accusés encourt 30 ans de réclusion criminelle car il se trouvait en état de récidive légale. Les deux autres encourent une peine de 15 ans. Écoutez l'avocat général Philippe Faisandier.
C'est relativement emblématique de phénomènes que l'on rencontre trop souvent en Nouvelle-Calédonie. C'est une affaire qui met en cause 3 jeunes auteurs, dont un qui était mineur au moment des faits et qui, gratuitement, sans motif ou pour un motif futile, s'en prennent à un jeune homme qui avait seulement le tort d'être présent à cet endroit au mauvais moment. Eh bien, l'un des accusés s'est approché de la victime pour lui demander de l'argent. La victime a refusé et de ce fait, elle a été rouée de coups par celui qui lui demandait de l'argent, auquel est venu prêter main forte un deuxième accusé qui se trouve être le mineur, pendant qu'un troisième, également majeur, filmer la scène. La victime va conserver des séquelles définitives de cette agression avec des pertes de mémoire.
Les jurés devront donc déterminer l'implication de chacun des 3 accusés dans les faits reprochés. La saison cyclonique approche en Nouvelle-Calédonie et selon les prévisions de Météo France, l'activité devrait être normale à accrue cette année, Léana Colombo.
Et selon les estimations, 4 phénomènes cycloniques sont attendus. Une période qui sera placée sous l'influence de la Niña et du réchauffement climatique. Conséquence, les précipitations devrait être plus importante que la normale, avec environ 7% d'eau en plus contenue dans l'air. Thomas Binoun, météorologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie, était notre invité du matin. Il détaille les paramètres à prendre en compte lorsqu'un cyclone passe à proximité du territoire.
commencent à avoir des vents destructeurs. Et donc ça, il faut vraiment s'en prémunir. Également, les pluies générées par les cyclones. Et là, il suffit pas d'un cyclone fort. Hein. Une simple dépression peut engendrer des pluies fortes, des pluies assez dévastatrices. Et il y a aussi le risque de submersion. Alors quand un cyclone passe à proximité de la Calédonie, d'une part, il crée une surcote cyclonique, c'est-à-dire la baisse de pression fait monter le niveau marin. D'autre part, le vent qui pousse l'eau vers la côte. On a les vagues aussi, les vagues du cyclone qui vont déferler sur le rivage. Et puis, du fait du changement climatique, eh bien, le niveau marin a augmenté. Et donc, cette élévation du niveau marin augmente le risque de submersion au passage d'un cyclone.
Toutes les consignes de sécurité et les détails de la saison cyclonique sont à retrouver sur le site internet de la Sécurité civile.
1500 magazines sont disponibles à l'emprunt à la Maison des associations de Nouméa. Le service de click and collect mis en place par les médiathèques de la ville évolue. Il est en effet désormais possible aux lecteurs d'emprunter des magazines, mais aussi plus de livres. Un service qui est coordonné par Nadine Boussmar. Elle est responsable des fonds documentaires de la bibliothèque municipale de Nouméa.
Pour les magazines, on a pu les trier, les mettre en place. Donc, il fallait un peu de logistique pour pouvoir les proposer aux usagers. Et puis, le système, oui, commence à bien prendre près des usagers. Donc, on souhaite qu'ils puissent profiter de plus de documents par personne. Donc, on passe de 2 livres à 3 livres pour les adultes et adolescents et pour les enfants de 3 livres à 4 livres. Et on ajoute aussi des magazines, ce qu'il n'y avait pas précédemment. Donc, 2 magazines pour les adultes et pour les enfants, 3 magazines par personne, évidemment. S'ils n'ont pas d'idée ou ils savent pas trop comment s'organiser ou comment utiliser le service, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler au 41 54 02. On est là pour les conseiller. Éventuellement, pourquoi pas leur faire des sélections. Ils n'hésitent pas à nous contacter.
Et pour accéder au catalogue et réserver vos livres ou vos magazines, vous pouvez aller sur le site internet webmediathèque@nouméa.nc. webmediathèque@nouméa.nc. Il faudra ensuite vous déplacer à la maison des associations à l'orphelinat pour retirer les livres et les magazines que vous avez réservés. 11h52, une nouvelle pause. On voit ce qui fait dans un instant l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde. On verra que le ministre de l'Intérieur confirme que le match de football France-Israël aura bien lieu le jour de vendredi matin à l'endroit prévu.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme à visiter dès à présent en concession au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite bonne route.
Votre restaurant La Braise vous accueille du mardi au samedi au 7 route de Lanzvata. Spécialiste dans la cuisson au feu de bois et à la braise, venez partager un moment dans une ambiance chaleureuse et familiale avec un espace dédié aux enfants. La Braise, votre restaurant de viande à Nouméa. Réservez vite au 450-850.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
À moins de 48 heures maintenant du match de football de Ligue des Nations entre la France et Israël, le ministre de l'Intérieur persiste et signe. 4000 gendarmes et policiers seront déployés autour du Stade de France. Il n'est donc pas question de délocaliser ce match ni de le reporter. C'est ce qu'a confirmé Bruno Retailleau sur le plateau du 20h de TF1, même si on ne peut pas écarter d'éventuelles violences antisémites comme aux Pays-Bas la semaine dernière.
Je le redoute, mais nous prenons les mesures pour que ça ne se reproduise pas. Je vais vous citer un autre chiffre qui est stupéfiant. Vous savez que nos compatriotes de confession juive composent finalement moins de 1% de la population française. Et pourtant, ils sont les victimes de 57% des actes racistes ou des actes de haine anti-religieuse. C'est incroyable. Et donc, il est hors de question de laisser passer la moindre chose, le moindre écart. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris ces mesures. C'est la raison pour laquelle nous disons de façon symbolique, voilà, la France ne se soumet pas. Et le match France-Israël aura lieu là où il devait avoir lieu, au Stade de France.
Et ce match France-Israël au Stade de France donc aura lieu vendredi matin pour nous. Les députés à l'Assemblée nationale ont rejeté le vote de la partie recette du projet de loi de finances. Le texte largement remanié par des amendements de gauche a été rejeté par les groupes macronistes, Républicains et Rassemblement national. Et c'est donc le texte original du gouvernement qui sera étudié au Sénat. Jacques Serret pour Europe 1.
3 semaines d'examen, 23 séances publiques dans l'hémicycle, mais il n'en restera rien ou si peu. Et pour cause, le volet recette du projet de loi de finances pour 2025 avait été largement remanié par la gauche. Les députés du NFP avaient notamment ajouté de nouvelles taxes sur les super-profits, sur les super-dividendes ou encore sur les rachats d'actions. C'est pourquoi le refus de ce texte par la majorité des députés n'est pas une surprise, même s'il est historique. Jamais l'Assemblée n'avait rejeté un budget. Désormais, Michel Barnier mise tout sur le Sénat, où dans son entourage, on perçoit les parlementaires de la Chambre haute comme plus responsables et surtout plus favorables à la copie originelle présentée par le gouvernement. Reste qu'après le Palais du Luxembourg, le texte devra inévitablement revenir au Palais Bourbon. Le Premier ministre ne devrait alors avoir d'autre choix que de dégainer l'article 49.3 au risque d'une motion de censure.
L'actualité en métropole, c'est aussi cette première. Pierre Urmic est le premier maire écologiste à franchir le Rubicon. Le maire de Bordeaux va armer sa police municipale. Il a pris cette décision après des mois de concertation. Face à l'augmentation de la violence et de la délinquance dans sa ville, il va donc armer ses policiers, mais une partie seulement.
Ce que me disent mes policiers municipaux, c'est qu'ils sont des primo-intervenants sur un certain lieu de dangerosité, des RIX et autres. Au regard de l'augmentation de la violence des faits de délinquance à laquelle nos policiers sont confrontés, la réalité du terrain a incontestablement changé. Nous créons une brigade d'appui de sécurisation dont les agents et eux seuls seront équipés d'une arme de poing. Cette brigade, elle interviendra en appui des autres brigades dans la journée et elle interviendra sur l'ensemble de la ville en soirée. Elle sera dotée d'une cinquantaine d'agents et sera opérationnelle pour la mi-25.
Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Et puis parlons de Nigel Richards maintenant. C'est un homme d'exception. Ce Néo-Zélandais est devenu champion du monde de Scrabble hispanophobe. Un véritable exploit quand on sait qu'il ne parle pas un mot d'espagnol. Et cet homme à la mémoire phénoménale n'en est pas à son coup d'essai. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Après 15 ans d'hégémonie sur le Scrabble anglophone, Nigel Richards commence à s'ennuyer en 2015. Alors, pour se compliquer la tâche, il part à la conquête du Scrabble francophone sans parler un seul mot de français. Il apprend donc par cœur les 380 000 mots du dictionnaire officiel du jeu et devient champion du monde de Scrabble en français après 3 mois de révision seulement. Un exploit phénoménal, d'autant que s'il connaît les mots par cœur, Nigel Richards est en revanche incapable de construire la moindre phrase en français, car il ne maîtrise ni la grammaire ni la logique de notre langue. Grâce à sa mémoire incroyable, il s'adjuge tout de même 9 titres francophones supplémentaires et décide alors d'aller plus loin en s'attaquant cette fois à la concurrence espagnole. Rebelote donc, il potasse les près de 700 000 mots du dictionnaire ibérique jusqu'à créer l'exploit hier en devenant champion du monde de Scrabble hispanophone. Une nouvelle victoire d'autant plus inédite que le Néo-Zélandais a fait mieux que l'ordinateur à 2 reprises dans le tournoi du jamais vu au pays de Cervantes.
Voilà, Nigel Richards qui est donc devenu champion du monde de Scrabble hispanophobe. 11h58, dans un instant, c'est toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Hey! En ce moment, dans nos hypermarchés géants, c'est les méga maxi promos. C'est la folie des produits en promo.
Oui! Il y a des produits gratuits si on en achète 1, 2 ou 4. Des 50% gratuits, des produits Cagnotte Mon Club. En plus, jusqu'au 17 novembre, il y a 2 voyages de rêve à gagner tous les jours. C'est pas dingue, ça? Aujourd'hui, direction Bali et Auckland.
Viens vite, on y va.
Jusqu'au 17 novembre, les méga maxi promos, c'est dans nos hypermarchés géants préférés.
Géant Nouvelle-Calédonie, le moins cher. Venez comparer.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on va débuter cette page sport par du tennis avec la suite des Masters de Turin, Michael.
Et ce matin, l'Italien Yannick Sinner qui s'est imposé en 2-7 sur l'Américain Taylor Fritz. Une victoire 6-4, 6-4 qui permet au numéro 1 mondial de se rapprocher des demi-finales puisqu'il a remporté ses deux premiers matchs. Dans l'autre rencontre du groupe A, Daniil Medvedev a battu Alex de Minaur 6-2, 6-4. Le Russe se relance donc dans la course à la qualification avec deux défaites en deux matchs. L'Australien, lui, est tout proche de l'élimination. Ça jouera encore ce soir et demain matin. Dans le groupe B, Carlos Alcaraz n'a plus le droit à l'erreur. Défait par Casper Ruud lors du premier match, l'Espagnol doit battre Andrei Rublev s'il veut garder des chances de se qualifier. Casper Ruud, de son côté, affrontera l'Allemand Alexander Zverev.
La voile avec la suite du Vendée Globe qui n'en est qu'à ses débuts, mais déjà une petite surprise en tête.
Au dernier pointage, c'est Sam Goodchild sur Vulnérable qui est en tête. Pour sa première participation, le Britannique a déjà parcouru près de 700 000 nautiques et devance de seulement 3000 nautiques le favori Charlie Dalin sur Massif Prévoyance Santé. Charlie Dalin qui compte bien prendre sa revanche sur 2021 où il avait terminé deuxième. À noter qu'après un début de course plutôt calme, les skippers se sont confrontés à des conditions virulentes au passage du Cap Finistère. Maxime Sorel à bord de VNB Montbana Mayenne s'est blessé d'ailleurs à la cheville droite alors qu'il voulait réduire sa grande voile.
Et puis parlons aussi de la sélection de Nouvelle-Calédonie de football qui affronte les îles Salomon demain. Un match dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde.
Après avoir battu la Papouasie-Nouvelle-Guinée 3-1 lors du premier match des phases de poule, les joueurs de Johan Zidaner peuvent dès demain obtenir leur billet pour le dernier carré. Et pour cela, il faudra battre les îles Salomon et espérer dans le même temps une victoire des Fidjiens sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La rencontre des Calédoniens sera à suivre en direct sur la plateforme internet FIFA Plus à partir de 14h pour nous.
Merci Michael. Midi et une minute, c'est la fin de ce journal.